Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir sous format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. Dans cet épisode, je reçois France, Owl de son nom de scène, ou plutôt c'est elle qui me reçoit dans les locaux de Sony à Paris. C'est une chanteuse, auteure-compositrice française de mouvance électropop qui s'est fait connaître en 2011 grâce à des titres comme Tiki Tiki puis Don't Lose It, tous deux extraits de son premier album France qui est ensuite paru en 2014. Elle s'est également fait remarquer pour sa reprise de Zombie, She's Not There. Je m'entretiens avec elle à l'occasion de la sortie de son deuxième album Heavy Weather qui vient de paraître en cette mi-octobre 2018. Un album très attendu, pour lequel elle nous avait tenu en haleine grâce à un EP qui était sorti cet été et qui s'appelle joliment Summer Crisis. Je vous laisse avec Owl. Bah merci beaucoup Owl, c'est ça oui. À chaque fois, quand je t'ai connue, je sais pas pourquoi je me suis mis à prononcer Owly, alors maintenant j'ai un peu ce...
Bah, c'est en vrai, à l'anglais, ça se dirait comme ça, mais comme ce mot n'existe pas, c'est une erreur, c'est hibou en anglais, réorthographié, féminisé, 2LE, c'est un mot qui en fait n'existe pas.
Oui, c'est ça, c'est ta combinaison.
Tout le monde trébuche un peu sur la...
Bah, j'avais commencé par dire Owly, alors maintenant j'ai ce réflexe.
Mais tu peux le dire Owly, c'est très bien.
De m'empêcher de dire Owly, alors merci d'avoir accepté l'interview pour Unlike. Moi, je t'ai découverte avec ton premier album, c'est un ami proche à moi qui m'avait dit vas-y, faut que t'écoutes absolument ça. Et la première fois que j'ai écouté, je savais pas qui tu étais, d'où tu venais, et spontanément j'ai pensé que t'étais d'origine anglo-saxonne, je sais pas, j'ai pas du tout senti...
Oui, c'était souvent le... ce que pensaient les gens.
C'est vrai,
ouais, oui,
on t'a dit ça.
Ah oui, voilà, très souvent, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir même en France jouer en pensant qu'ils allaient voir une fille qui venait d'ailleurs, quoi. En tout cas, même si c'était pas forcément... du côté Angleterre, tout ça, il y avait toujours la question de est-ce qu'elle est scandinave, ou il y avait vraiment une espèce de zone d'ombre que j'ai un peu entretenue, parce que alors maintenant ça allait un peu moins, c'est mon second album, donc forcément mon nom a un peu plus circulé entre temps, mais ouais, c'est drôle, et puis c'était assez amusant de laisser flotter on sait pas d'où je viens, qui je suis.
Tu parles d'influence, de Scandinavie, et c'est vrai que j'ai lu dans les interviews que tu disais que c'est quand même des artistes qui t'influençaient beaucoup.
Ah oui, beaucoup.
La pop, donc finalement, c'est peut-être un rapprochement qui t'allait bien. Enfin, je pense
c'est pour ça que je pense que ça a fait un parallèle dans la tête des gens très fin. C'était un circuit facile pour eux d'imaginer que je venais de cette zone-là.
Alors, on va commencer peut-être par le début. Moi, je voulais un petit peu revenir en arrière, parce que ton premier album, il est sorti en 2014, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Là, on se rencontre à l'occasion de la sortie du deuxième, qui est imminente. Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'il...
Pour la rentrée.
Pour la rentrée, ouais, d'accord. Ouais. Parce que là, tu as sorti l'EP qui annonce quelques titres de cet album.
Oui.
Et moi, je voulais revenir un petit peu avant. Juste, il me semble que tu t'es fait plus ou moins connaître un peu plus largement grâce à un petit tremplin qui est le concours des Inrock.
Oui, c'est ça.
Enfin, qui s'appelle maintenant les Inrock Lab depuis quelques années.
Et qui étaient déjà les Inrock Lab.
Qui étaient déjà les Inrock Lab. Ouais, en 2011. Mais j'ai pas pu remonter au-delà pour voir un petit peu.
Ah,
bah
non, parce que en fait, avant ça, c'est eux qui ont fait démarrer l'histoire. En fait, j'ai commencé à me produire avec mon ami Cord. Je venais de découvrir en fait cet instrument, et vraiment le démarrage, ça a été une session acoustique que j'ai faite avec un ami qui avait un site qui s'appelait Le Hibou. Qui s'appelle de... Non, je crois que ça a changé depuis. Rod Morris, de son nom. Et je venais de découvrir cet instrument. J'avais adapté une de mes premières compositions avec. Et je lui avais demandé de me filmer dans une église. C'était mon rêve, en fait, de faire une performance comme ça. Et du coup, on l'a faite. Et la vidéo a circulé un peu dans tout Paris. Et est arrivée assez rapidement... je pense dans les mains des Inrock et de gens qui s'occupaient de ce concours, et donc voilà, je suis rentrée un peu dans ce circuit là mais
donc c'est eux qui t'ont après repéré un
truc. Disons que c'est vraiment en quelques mois, il y a vraiment sans en faire trop, ma vie a un peu basculé avec ce tremplin, cette session, et puis tout s'est enchaîné très vite, et au bout de quelques mois j'ai abandonné toutes mes activités à côté pour devenir ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire faire de la musique et être auteur, compositeur, interprète.
Avant de poursuivre, voici un extrait audio de la vidéo tournée par Rod Morris à l'église Saint-Roch à Paris. On est en octobre 2010, Hole interprète Free. Et sans transition, vous pourrez écouter un extrait du morceau version studio. Vous verrez, il n'y a pas beaucoup de différence. Il me semble que tu n'es pas parisienne et que tu es plutôt dans le sud de la France. Oui. Alors moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir comment ça s'est passé ton arrivée à Paris. Mais concrètement, toi, tu es arrivée un jour, tu t'es dit je vais aller à Paris parce que je pense que c'est là-bas que les choses vont se faire.
Ou c'était comment... une volonté de partir parce que je stagnais de là où je viens et que c'était, j'avais fait une école de scénographie. J'avais eu mon diplôme et je m'étais dit si j'ai mon diplôme, etc., moi, je voulais faire les Beaux-Arts de Paris. Et donc, j'ai passé une équivalence. Le concours a marché. Il se trouve que l'été avant que j'ai la réponse pour les Beaux-Arts de Paris, en fait, cette réponse, je m'étais dit, si elle est positive, je pars parce que j'ai besoin de changer d'air, de bouger. Et en réalité, en France, je ne voyais pas où aller vraiment à part Paris. Ouais. Parce que culturellement, juste tout simplement, il se passait beaucoup de choses qui m'attiraient. Et puis, comme j'avais un peu la bougeotte et que j'avais l'impression de ne pas m'épanouir à 100%, j'avais une sorte de boulimie que j'arrivais pas du tout à combler là-bas. Il y avait cette volonté aussi de la musique, mais qui était un espèce de secret assez enfoui pour que personne ne sache vraiment pourquoi je partais.
D'accord, donc c'était
pour moi c'était les Beaux-Arts.
Les Beaux-Arts, ouais, d'accord.
Oui, donc j'ai fait les Beaux-Arts et puis je me suis quand même assez vite rendu compte que j'avais envie d'être d'être active. Je voulais plus avoir ce statut d'étudiante. Je savais que j'avais pas fait le tour évidemment, mais il y avait comme une espèce de boucle qui se refermait. J'avais besoin de renouveau. Donc, j'ai commencé à entamer des stages pour être dans la scénographie de défilé. Donc, j'ai travaillé pour une boîte de production qui s'appelle Bureau Bétac, dont j'ai découvert beaucoup de choses avec eux. Puis, j'ai compris qu'il y avait aussi, on pouvait faire... Il y avait des gens qui faisaient de la musique exprès pour les défilés. Enfin, je comprends tout ce qui se passe autour. Je découvre un peu ce milieu. Ensuite, je travaille pour une galerie d'art où
tu construis ton réseau aussi.
En fait, je construis mon réseau artistique. Ouais, ouais. Je me laisse un peu aller à des expériences diverses où je suis encore un peu étudiante et en même temps, je donne beaucoup de place à toutes ces activités-là jusqu'au moment où j'ai voulu rentrer dans la vie active. Et donc, j'ai commencé à me dire la musique, j'ai envie d'en faire. Et donc, j'ai travaillé, j'en faisais un peu à côté. Mais de toute façon, tout s'est construit très doucement en fait. Et puis après, il y a eu cet événement au niveau de la musique par des rencontres où d'un coup, tout a basculé.
Comment tu as rencontré les premières personnes que tu as pu rencontrer
C'est la vie, quoi. C'est des rencontres de vie, en fait. C'est des... Paris, après, c'est grand et petit en même temps. Donc, ça a rebondi sur des amis que je m'étais faites aux Beaux-Arts, m'ont fait rebondir sur des gens qu'elles connaissaient, qui travaillaient dans des studios. Puis voilà, c'est des choses qui se passent autour d'un verre un soir, et puis on rebondit, et puis on interagit, puis on va à des concerts, on rencontre des gens. Enfin, c'est tellement en fait un arbre complexe que ce serait difficile comment ça s'est fait. Parce que c'est quelque chose qui se construit avec juste la vie,
en fait. C'est au feeling, sur le moment, j'imagine.
Oui, après moi, ce que je retiens, c'est des moments charnières comme ça, où ça bascule parce qu'il y a une intervention qui fait porter le message... Donc Rod en fait partie, c'est-à-dire quand il me filme ce jour-là et qu'il poste cette vidéo, moi j'ai pas conscience en fait qu'à ce moment-là je suis en train de signer pour faire ce métier.
Et puis ta carrière quoi.
Voilà.
Et que lui avait un réseau important
Lui en tout cas ses vidéos étaient très vues, mais moi j'étais pas quelqu'un de super connecté en fait, je me laissais porter en réalité, donc je calculais pas trop où j'allais, j'avais vraiment, c'est un mot que je dis beaucoup, mais cette boulimie de rencontrer des gens, de découvrir, de faire tout ce que j'avais pas eu l'impression de faire en fait avant.
Et toi, tu viens d'une famille de musiciens ?
Ah, pas du tout, non. Il y a quand même la musique chez moi, mais il n'y a pas de musicien professionnel ou de musicien. Par contre, oui, c'est clairement, je suis issue d'une famille qui a un vrai.
De mélomane, quoi. Ou
bah, en tout cas, qui a un vrai sens artistique. Ma mère était danseuse, comme dans plein de familles. Ouais, enfin, je crois qu'on a toujours tous quelqu'un qui.
Qui aime bien la musique.
Ouais, enfin, la musique, c'est quand même la vie, quoi.
Ouais,
donc,
c'est clair.
Mais bon, d'accord. C'est vrai que oui, c'est affirmé dans ma famille. Il y a quand même une fibre artistique, clairement.
Et toi, tu jouais d'un instrument ou tu.
Non.
Pas du tout.
Non, non. J'ai toujours chanté, mais j'ai vraiment fait mes premières chansons par le biais de ma voix, en fait. Et après, c'est vraiment quand cette histoire a commencé à arriver à moi en étant installée ici que je me suis dit, il faut que je compose seule. Donc, j'ai appris de façon très autodidacte à travers des programmations, plus parce que j'étais beaucoup plus dans ce langage-là, électronique.
J'ai lu une interview récente de toi et tu disais que ça te donnait l'impression d'être une vraie musicienne en fait. Ça me fait penser à cette histoire de légitimité aussi qu'on peut avoir à ce qu'on se sent musicien quand on n'a pas fait de la guitare depuis qu'on a 5 ans, que c'est mon cas aussi par exemple, qu'on sent un élan, envie de faire de la musique mais qu'on n'a on a pas appris quand on était jeune.
En fait, moi je me suis vite dit que sur le premier album j'ai eu beaucoup cette sensation d'être, de ne pas être légitime, etc. etc. Et d'ailleurs, sur scène, ça se ressentait.
Même au premier album,
oui,
après le premier EP.
Oui, même après le premier EP, le premier album, j'avais pas une assise. Il y a Patrick Fiori qui vient de me dire coucou, que je ne connais pas.
Exact.
Ça m'a fait rire.
Donc, tu ne le connais pas ?
Non, on est dans le même. Peut-être qu'il est dans mon label, je pense, ou peut-être. Je ne sais même pas d'ailleurs. Mais non, d'ailleurs, il n'est pas dans mon
label. J'ai manqué Patrick Fiori.
Voilà, c'est ça.
Je suis de dos.
Parce que la vision était assez drôle.
Tu me dis s'il y a quand même une big star qui passe derrière, histoire que je me tourne quand même. Parce que.
Non,
oui,
mais
parce que pour préciser, on est chez Sony là, on est dans les locaux de Sony,
c'est ça.
Donc c'est pour ça il y a du
passage.
Il y a du passage.
Non, en tout cas, je suis, j'avais sans doute, en tout cas, ce problème de légitimité sur le premier, même jusqu'à ce que je finisse de le défendre. Mais c'est quelque chose qui est complètement effacé aujourd'hui parce que justement, j'ai créé mon langage à moi musical et justement, il s'est fait peut-être pas dans les créneaux habituels. Mais j'en connais finalement beaucoup qui ont fait.
Ouais, mais attends, y en a plein, de plus en
oui,
plus.
Oui, parce qu'aujourd'hui.
Les personnes qui sont seules chez elles, qui produisent de super morceaux.
Oui, puis on n'a pas tous l'occasion d'apprendre un instrument jeune.
C'est ça.
Moi, je sais que voilà, j'étais très manuelle, je voulais faire de la danse, je chantais, mais voilà, c'était pas. Oui, j'ai pris des cours de chant adolescente et machin.
Ouais, t'as
mais...
pris quand même des cours de chant.
Oui, ouais, j'aimais ça. Après, ces cours de chant, ça a dû durer 1 ou 2 ans. C'était comme un hobby, quoi, et c'était un moyen aussi de faire autre chose après les cours, quoi. Enfin, il y avait un espèce de truc comme ça. Je m'étais pas forcément dit que ce serait ma. Je sentais qu'il y avait quelque chose à faire avec ma voix, mais je me laissais un peu porter, quoi, par tout ce qui se passait, etc. Et donc, oui, après, quand j'ai entamé les Beaux-Arts, j'étais pas forcément convaincue que la musique serait mon métier. Je savais pas. Enfin, il y a la musique, mais de plus en plus, j'ai envie de développer des choses un peu à côté, qui soient en lien avec la musique, hein, mais en lien avec l'image aussi. Enfin, je pense qu'il faut savoir
intégrer un petit peu tous les.
Oui,
toutes les
puis, j'ai, puis, et... puis je viens à la base quand même des beaux-arts,
ah oui,
donc
pour ça, ouais.
je m'intéresse aussi à d'autres choses, et donc c'est super de pouvoir mixer tout ça et de se dire qu'on peut créer de 1000 façons.
Alors moi, j'ai vu qu'un seul concert de toi, donc il y a quelques jours au Badaboum, qui était un peu ton concert retour pour ce deuxième album. Donc je n'en ai pas vu d'autres avant, donc je sais pas si sur scène, tu intègres un petit peu d'autres formes d'art aussi avec toi.
Bah, ça va venir pour l'instant, on est plus sur la musicalité, ouais. Ma présentation, et voilà. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de scénographie, c'est en construction. Mais aussi, ça va aller avec les scènes que je vais faire et avec l'avancement du live. Là, pour l'instant, on est plus dans dans une construction vraiment musicale, à trouver mon son sur scène, parce que
phase
j'ai envie
de rodage, un
ouais, peu on est vraiment en phase de rodage.
Set, quoi.
Donc ça c'est en train de se faire et c'est déjà un gros travail et puis c'est ensuite voilà il y a déjà un petit travail de lumière qu'on est en train de construire pour les prochaines dates et pour qu'il se passe des choses et moi j'ai clairement envie de pousser cet aspect là mais voilà il y a aussi tout cet aspect technique on va dire où pour l'instant quand on fait du club on peut pas partir dans des choses complètement folles après avec beaucoup de simplicité on peut trouver des choses à faire mais voilà là pour l'instant on est vraiment comme tu disais, une phase de rodage. Je reprends mes marques sur scène. Ça fait quand même 3 ans que j'ai pas repris la scène. J'ai fait des choses, mais tenir 1 heure sur scène, c'est voilà, je redécouvre ça. Donc,
Entre le premier album et là, ce deuxième et cette EP, finalement, on sait qu'il faut du temps pour recréer. Comment on gère l'espèce de pression qu'il peut y avoir de la part de l'entourage professionnel ou même de tous les gens en fait, une pression qui n'est pas volontaire mais tous les gens qui t'aiment et qui attendent ton retour, attendent une chanson et
je pense qu'au début c'était une il y avait je prenais cette pression enfin je prenais ça très à cœur et la peur de pas aller assez vite etc et en fait très vite je me suis quand même rendu compte que cette urgence là elle est pour les autres mais ma propre urgence c'était de faire quelque chose qui soit à la hauteur de ce que j'avais imaginé, de ce que je voulais faire, la couleur que je voulais donner à cet album, pourquoi je voulais le faire comme ça, pourquoi j'ai choisi tel réalisateur. C'est tout un questionnement. Après, il y avait les textes que je voulais pousser davantage, puis il y a la réflexion de l'image. En fait, c'est tous ces éléments l'un dans l'autre fait qu'on se retrouve avec 2 ans, on va dire, de création. Ouais. Ça paraît énorme, mais en fait, ça passe tellement vite. Alors oui, c'est vrai que vu de l'extérieur... Ce qui est assez d'ailleurs classique hein, entre un premier et un second album. Quand on fait tout seul, en tout cas une grande partie, c'est quand même assez rare que ça mette un an.
Et toi, tu écris et tu composes des mélodies.
Oui, et puis je fais même aussi des pré-prod de
des maquettes, quoi.
Voilà, ouais. Donc et dans l'idée aussi de à un moment donné aboutir même des chansons produites toutes seules. Là, j'ai collaboré avec Dan Levy sur cet album, donc ça s'est fait différemment, mais ça m'est arrivé sur quelques titres de lui amener certains sons que je voulais absolument garder, des structures que je voulais garder. Il y avait un vrai échange entre lui et moi.
Quand tu parlais justement de Dan Levy, il a notamment du duo The Do. Tu es partie, il me semble, aux États-Unis pour enregistrer l'album, c'est
alors,
ça
ou... Alors, c'est malheureusement. Ou alors pas c'est malheureusement.
Faux. Non, c'est pas c'est faux.
En fait, il y a une vérité là-dedans, mais qui est un peu biaisée, on va dire. Je suis partie effectivement en Californie parce que j'avais besoin à ce moment-là, dans ma vie personnelle, de faire une coupure. Donc, je suis partie et c'était à la fois pour souffler un coup après la première tournée et aussi tout ce que j'avais à digérer je venais de passer 2 ans un peu de folie où tout s'était enchaîné, c'était très beau et en même temps c'était un peu vertigineux et j'ai eu un peu ce que je dis le baby blues parce que je sais pas comment le l'appeler.
Ouais, c'est un peu ça en fait. Ouais.
Et donc j'avais un peu de tristesse et de mélancolie et donc je suis partie et puis en fait j'ai commencé à écrire les premiers titres du nouvel album là-bas
okay.
Et entre temps moi j'ai recroisé Dan qui était quelqu'un que j'avais déjà connu en faisant les premières parties de The Do à l'époque et on suite à une conversation j'avais adoré leur dernier album, la production, l'écriture aussi d'Olivia etc et donc naturellement on s'était dit qu'on se reverrait quand j'aurais assez de maquettes et puis on s'est revus et puis il a entendu les démos, il a adoré. Puis il m'a refait travailler, il y a des choses qu'on a mis de côté. En fait, on a repensé un peu les choses ensemble, il y a des titres qui sont restés. Mais donc du coup, l'info circule que j'aurais enregistré à Los Angeles, ce qui n'est pas totalement faux, parce qu'il y a des choses que j'ai gardées de là-bas, mais j'ai complètement enregistré en France. Donc,
d'accord, ok. Voilà. Donc c'est plutôt on a un travaillé travail en France. Artistique, un travail toi personnel
c'est,
là-bas.
C'est l'écriture, l'écriture qui s'est faite là-bas. Plutôt.
D'accord, ok. Donc,
c'est pas complètement faux. Mais...
Non, d'accord, il y a quand même une part, mais c'est bien d'avoir un peu...
Oui, mais bon, après, okay. c'est des petits raccourcis qui sont pas très graves, mais...
Ouais. Et tu parlais d'Olivia aussi, Olivia oui. Merilati, qui est donc le deuxième, duo avec Dan, avec ouais. Dan Levy. Y a une chanson que tu as interprétée la semaine dernière, donc qui n'est pas encore sortie,
ouais.
Qui est, alors tu disais sur scène qu'elle était écrite avec Olivia.
Ouais, on a co-composé ouais. le texte ensemble. Et d'ailleurs la chanson, en fait, moi on a une très belle amitié toutes les deux. Et du coup, puis on partage plein de choses de juste de femmes aussi dans la vie, en fait, et c'est super. Et on partage aussi notre expérience d'auteur-compositeur, ouais. et le fait aussi d'être une femme, etc. Bon, c'est très d'actualité, mais c'est super de pouvoir le partager. Et puis avec elle, j'étais en pleine écriture de cet album, et puis j'ai eu des petits moments un peu de ralentissement et de réflexion, elle était à Biarritz à ce moment-là, et j'étais jamais allée. Elle me dit mais rejoins-moi et imagine Biarritz et imagine ce que tu... Enfin, elle voulait en fait me donner les clés pour essayer de faire une nouvelle chanson. Elle me dit bah imagine Biarritz et avant que tu rencontres cet endroit.
C'est pas mal comme.
Et du coup j'ai imaginé et ce titre Kiss the Bride est arrivé donc j'avais pas encore tout le texte et on l'a fini ensemble.
D'accord.
Et c'est une chanson qui est importante pour moi parce que elle a pas plu à tout le monde tout de suite. Je me suis un peu battue pour qu'elle reste sur l'album.
Moi personnellement, c'est un titre que j'ai. Enfin, tu l'as chanté, j'ai adoré.
Non mais c'est marrant parce que je me suis battue en fait.
J'ai un peu eu le crush quoi.
Tu vois, super.
Ouais.
Mais je me suis battue en fait vraiment pour ce titre parce que parfois c'est comme ça. On a aussi des gens autour qui ont plus de recul et puis on sait pas pourquoi il y a des titres qui ressortent plus, etc. Et je sais que celui-ci, il faisait pas l'unanimité et moi j'en avais l'intime conviction que on avait un petit bijou en simplicité en fait, mais qui changeait aussi un peu de toutes mes envolées, etc. Et de mes petites habitudes d'écriture et surtout parce qu'il y avait une histoire de deux femmes en fait.
Une histoire derrière ce titre quoi.
Donc
vraiment une histoire. Ouais.
Et donc voilà, j'ai tenu bon et puis c'est resté. Et en fait aujourd'hui c'est un des titres qui ressort le plus quand je le fais en live.
Ouais.
Et moi, je prends.
C'est l'impression que j'ai eue en tout cas. Ouais, ouais.
Je prends beaucoup de plaisir parce que, voilà, il, dans le processus d'écriture, il a eu un. Bah, c'est un moment, quoi. C'est un moment fort, voilà.
T'es dans quel état d'esprit, enfin, peut-être pour ce deuxième album plutôt, dans quel état d'esprit tu étais quand tu l'as écrit là, tu parlais un peu tout à l'heure de mélancolie, peut-être de tristesse. Est-ce que. Enfin, on entend souvent ça, mais est-ce qu'il y a le syndrome un peu de l'artiste maudit, enfin, est-ce qu'on se sent forcément un peu, est-ce qu'on doit être un peu fébrile pour
non,
écrire des chansons qui nous portent ou...
Je pense que en fait moi j'ai écrit aussi des chansons sur cet album parce que j'étais très heureuse de changer de vie ou de changer de parce qu'il y avait une espèce de c'était des moments où les choses bougeaient, où je redistribuais un peu les cartes. C'est pas forcément des moments, et puis la mélancolie c'est pas forcément mal, enfin triste non, en fait, enfin on en fait beaucoup la traduction, il peut y avoir une mélancolie plutôt joyeuse en fait. Ouais. Moi quand il y a des moments où je suis dans des états de mélancolie, mais je suis pas triste et je pense pas en fait je trouve que ce serait super dur pour toute forme d'art de se dire qu'il faut absolument souffrir. Je crois pas, je pense que oui évidemment
c'est pas qu'il faut absolument souffrir, mais plutôt il se trouve que j'ai l'impression qu'il y a souvent des artistes qui se trouvent dans la position un petit peu de ou dans un moment de souffrance et c'est là qu'ils sortent un
peu. Je pense que c'est au-delà de la souffrance, c'est la remise en question juste de la vie et forcément c'est pas toujours des moments heureux, mais en réalité je pense que le vrai moteur c'est cette solitude à laquelle on est confronté souvent quand on fait ce métier et du coup on est très sur nous et sur le monde et c'est des sentiments forts et je pense que c'est de ça dont on se nourrit, mais voilà, je pense qu'il faut pas être dans le, en tout cas j'espère que c'est pas le drama qui fait que on, mais oui forcément une rupture ça fait écrire, forcément des moments de tristesse ça fait écrire, mais des moments de joie aussi j'imagine, c'est pas mon cas, mais le jour où peut-être je donnerai naissance à mon premier enfant, ça me donnera envie d'en faire une chanson. Ouais. Je pense que voilà, c'est toutes sortes de choses.
Et j'avais une question aussi, hein. On parle souvent de mentors qu'on peut avoir dans la vie, etc. Ouais. Moi, j'ai pas envie de te demander spécialement tes influences musicales parce qu'on peut les déceler en écoutant ta musique et puis aussi parce que ouais, on peut trouver sur internet plein de noms d'artistes, mais moi je voulais plus te demander sur tes mentors. Mmh. Est-ce que tu as eu vraiment des gens, alors tu parlais de Rod Morris tout à l'heure, mais qui t'ont porté professionnellement ou vers qui tu te tournes tout le temps ou vers qui tu t'es tournée et que tu pourrais qualifier vraiment de mentor dans ce milieu?
En fait,
ou est-ce que peut-être c'est pas, c'est important pour
alors
toi
c'est pas que c'est pas important, c'est que
tu le vis pas comme ça.
Alors sinon, on peut rentrer dans un sujet très complexe. C'est juste que
on va juste
par le biais d'une expérience, je me suis rendu compte que très souvent, quand on est une femme chanteuse, auteur-compositeur, on nous donne quand même très régulièrement la sensation qu'on a besoin d'un mentor.
Ouais. Justement. Après, ça peut être un mentor femme.
Ou un Pygmalion, ouais, machin.
Non, mais forcément alors, de mentor homme. Hein.
Ce que je veux dire, c'est que du coup, par exemple, aujourd'hui, là où je veux en venir, c'est que du coup, moi, j'ai appris à essayer d'être le plus autonome possible, etc. Parce que justement, ça pouvait être un peu piège d'avoir le sentiment d'avoir besoin de quelqu'un ou pas. Mais en réalité, effectivement, pour te rejoindre, oui, sur ta question, c'est qu'il peut y avoir aussi des mentors femmes. Et je pense, par exemple, qu'une Olivia a été pour moi quelqu'un de très, très important dans l'écriture de cet album. Alors, Dan a produit et c'était super, évidemment. Mais toutes les deux, on a eu un truc humainement qui nous a... je pense dépasser en fait et qui nous a motivé l'une et l'autre dans ce qu'on était, ce qu'on faisait et ça m'a vraiment porté aujourd'hui. Voilà, je sais quand j'ai besoin de conseils, d'une démo, alors il y a elle et puis il y a aussi quelqu'un dans ma vie qui est très proche et qui n'est pas dans la musique mais à qui je prends plaisir d'envoyer mes démos parce que voilà, c'est donc ça parfois ça peut être aussi des gens hors musique qui sont juste ça peut être voilà, un parent, quelqu'un où on sait quand on va envoyer justement son recul parce qu'il n'est pas dans la musique, il va avoir un avis super brut.
Une oreille toute neuve.
Mais une oreille de public aussi.
Sans influence, voilà. Ouais.
Et ça, c'est important.
Ouais.
Donc voilà, moi je dirais que ça se situe par là.
Et juste, petite indiscrétion, mais Olivia, elle poste des photos, on la voit enregistrée en solo, elle va sortir, elle va se lancer...
Alors ça, je te laisserai lui poser la question.
Oui, bah, j'espère que j'aurai l'occasion de le faire.
Oui,
après, voilà, c'est public, enfin, elle a mis sur... Elle
oui,
met
des photos donc, du coup, voilà.
Hashtag solo, donc j'imagine qu'elle
a... Oui, non, elle prépare des chouettes choses, mais je te laisse le plaisir de lui poser les questions à ce sujet.
Merci.
Mais oui, ça bosse.
On parle souvent de ton apparence. Est-ce que c'est quelque chose qui te dérange, ton apparence, ta couleur de cheveux, ton fait que t'es changé de cheveux?
Oui, c'est quelque chose qui marque beaucoup, ça.
Ouais, on en parle souvent. C'est souvent même les intros, des fois des articles et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui t'agace, qu'on focalise ou le fait que
alors
tu portes aussi des tenues sur scène?
Oui, je m'amuse en fait.
Voilà, tu t'amuses. Est-ce que
ça me dérange pas, hein. Ça me dérange pas. Après, c'est vrai que comme tu dis, je trouve que en introduction, parfois c'est un petit peu réducteur parce que. Mais en même temps, j'ai choisi de faire de la pop musique et en fait, on sait que l'esthétique, la présentation, c'est on va dire du 50-50 sur tout le reste et que c'est ce qui m'a plu à l'idée de faire ce métier. Donc je vais pas aller dire ah non mais je suis dérangée. Non, j'adore m'habiller, j'adore être sexy sur scène, j'adore jouer avec mon apparence, que ce soit jouer sur des codes très différents. En fait, je m'amuse, mais effectivement, y a ce côté léger, parfois il faut comprendre que c'est... Parfois, ça a du sens et parfois, c'est le fait que, voilà, qu'on introduise parfois ma musique en disant bah, elle est passée de rousse à un blond peroxydé, comme si ça allait changer la donne.
Ouais, ça a changé la couleur de ton album.
Après, il y a une réalité, c'est que si j'ai changé aussi d'apparence, c'est parce que j'ai changé aussi de positionnement, que j'ai eu envie de faire... et puis que je suis aussi juste une femme, être humain, qu'en 4 ans, j'ai des envies... Je change d'apparence aussi, ma vie m'apporte plein de choses, donc du coup, on est tous pareils, quoi.
Ouais, c'est clair.
Ça m'aurait dérangé, par exemple, d'être rousse toute ma vie parce qu'on a choisi que j'étais la rousse. Non, en fait, moi, j'ai envie de changer comme un David Bowie a changé d'apparence tous les 4 ans, parce qu'à chaque album, quoi.
Des énormes changements, en plus.
Oui, et puis moi, j'aime l'idée d'être... On ne sait pas pour le troisième, peut-être les cheveux courts, et j'en sais rien, en tout cas, c'est pas prémédité, mais juste, ça fait partie comme d'une mue, en fait. Donc voilà.
Tes influences du moment, là, si t'avais 2-3 artistes que t'as découverts ou pas, mais qui ont sorti des nouvelles choses et que tu aimes particulièrement écouter.
Écoute, les nouvelles choses, je suis hyper fan comme de la première heure de Likely qui a sorti un nouvel album.
On a ça en commun, j'ai vu que t'en parlais, j'adore. Moi,
donc je suis trop contente. Donc,
elle m'inspire énormément.
Il y a elle, après, j'écoute quoi en ce moment après j'ai un peu mes basiques, je retourne sur du Frank Ocean régulièrement, j'adore évidemment Beyoncé sort un nouveau truc donc j'écoute, là je sais pas, je peux pas donner encore mon avis, je sais pas si j'aime ou j'aime pas
Beyoncé.
Oui,
Voilà,
je sais juste que j'ai voilà.
Ouais,
je...
C'est un peu tôt parce qu'elle a sorti.
Oui, deux jours.
Ouais, il y a deux jours.
Mais pour le titre, il faut digérer un peu. Mais j'ai des playlists qui tournent, qui sont assez riches. Hein. Ça part de quand même de il peut y avoir du ABBA dedans, comme il peut y avoir, enfin c'est assez mélangé.
Ouais,
moi je mets de l'ancien et du nouveau tout le temps. Ouais. Et puis non, après il y a des perfumes Genius que j'adore, que je réécoute sans cesse. Puis parfois ça me fait bifurquer sur d'autres artistes sur lesquels je suis passée complètement à côté. Donc voilà, je
vagabonde. Est-ce que tu as pensé à chanter en français déjà?
Oui, ou... c'est une idée qui forcément me traverse, mais j'attends la bonne chanson, le bon moment. Il y a une chanson à laquelle je pense, que j'ai faite d'ailleurs l'autre soir au Badaboum, en rappel, qui est une toute nouvelle chanson, où je pense qu'il y a, une possibilité de la faire en français. D'accord. Aussi. Mais tant que j'aurai pas le truc, je m'aventurerai pas tant que j'ai pas un texte qui me colle à la peau, et peut-être pourquoi pas une collab avec quelqu'un qui écrit très bien en français pour que ce soit vraiment encore mieux.
Ok.
Faut voir.
Ouais, faut voir, ouais, c'est ça.
Merci à Owl pour cette interview. Son deuxième album Heavy Weather, qui vient de sortir, est disponible sur toutes les plateformes de streaming et téléchargement, tout comme les anciens titres de ses EP et albums précédents. Je vous invite à la suivre sur Instagram, @Owl, pour être informée de ses actus, et elle partage aussi également ses inspirations. Toutes les infos utiles sont dans la description de cet épisode, comme la musique que nous utilisons. Bien sûr, je vous donne rendez-vous sur le site unlike.net pour en savoir plus sur l'actualité de la musique. À bientôt.